Bonjour.
Bonjour.
Ton prénom ?
Je m'appelle Alexis.
Alors Alexis, la question, c'est quoi ton film préféré ?
Eh ben en fait, ça sera pas forcément mon film préféré, mais ça sera un coup de cœur. Je vais parler de Jojo Rabbit de Taika Waititi.
On l'a pas eu encore celui-là, alors vas-y.
Alors Taika Waititi, ça raconte l'histoire d'un enfant qui grandit dans la jeunesse hitlérienne et qui a pour ami imaginaire Adolf Hitler. Et en fait, d'accord, sur ce postulat-là, en fait, c'est un film absurde par le fameux Taika Waititi à qui l'on doit Thor Ragnarok chez Marvel, et qui propose une comédie vraiment captivante. Déjà, c'est super drôle et du coup, on s'accroche au personnage. Et en fait, j'aime bien sa façon d'utiliser l'humour comme passerelle vers l'histoire. Comment en fait, il dénonce des réalités historiques via l'absurde. Et du coup, ce qui fait que le film propose des ruptures de ton qui sont incroyables. Et en fait, le film nous surprend par ses contrastes, et etc., par ce qu'on l'on voit et par rapport au ton du film en général. Et du coup, c'est un film qui est ultra prenant, ultra touchant, et que je conseille vraiment à tous de voir parce que voilà, en plus, il dure qu'une heure 40, donc voilà.
Ah, c'est vrai que ça nous change de 3 heures de Captain America.
Totalement.
Eh bien, merci Alexis.
Merci à vous.
À la prochaine.
À la prochaine.
À tous les moldus. Écoutez Graffiti Cinéma.
Hé, hey, c'est quoi le texte ?
Comment on dit déjà ?
J'ai oublié.
Où est-ce que vous voulez en venir ?
Laisse tomber.
Graffiti Cinéma.
Tcha ! Graffiti Cinéma.
Bonsoir et bienvenue dans Graffiti Cinéma, c'est Romaric, on commence un tout nouveau thème cette semaine, le thème du mois de février après l'épisode de la brigade cinéphile du cinéma Les Carmes. La semaine dernière, vous avez découvert l'actualité art et essai avec les jeunes cinéphiles. Au mois de février, on commence le catch au cinéma. 4 émissions en compagnie de l'Orléans Wrestling Association. Ça, c'est une prestation qu'on vous donne avec plaisir puisqu'il y aura beaucoup d'anglicisme ce mois-ci. On parle de catch qui est une discipline qui est née en Europe, vous allez le découvrir, et puis qui a beaucoup de racines françaises, mais qui évidemment a gagné sa substantifique moelle directement aux États-Unis. Donc on va voyager beaucoup outre-Atlantique pendant ce mois-ci en compagnie de nos invités, tout simplement parce que on va dans la filmographie du catch aborder 3 thèmes. Le catch, le sport mise en scène, c'est notre première émission. Est-ce que cette discipline sportive est la plus cinématographique dès son essence, dès sa création en fait? On va en parler puisque la notion de mise en scène est très importante dans cette notion de divertissement. Deuxième semaine, les acteurs catcheurs, les comédiens qui ont percé après avoir été catcheurs. Là, on aura pas mal de grands noms et plutôt des gars à qui il faut parler poliment. Le troisième thème, le catch au cinéma, la représentation du sport au cinéma entre réalisme et fantasy. Et enfin, la dernière émission, ça sera notre film du mois. En tout cas, on abordera ce film essentiel avec un catcheur en tête de gondole, Invasion Los Angeles avec Roddy Piper, un catcheur mythique des années 80. Le catch au cinéma, c'est parti cette semaine directement avec le catch sport mise en scène, et dans deuxième partie, dans la partie actualité, vous découvrez Rebecca qui nous fait un compte rendu du Dernier Jaguar, un film que vous découvrez cette semaine en salle et on vous le recommande vivement. En tout cas, c'est l'avis de Rebecca de ce film de Gilles Demaître, un vil film familial, donc que vous découvrez en deuxième partie de Graffiti Cinéma. On commence avec No Catcher. Let's get ready to rumble. Je pense que le gars d'après le fait un petit peu mieux. A tout de suite.
Ladies and gentlemen, from Mandalay Bay, Las Vegas, let's get ready to rumble.
Ready, ready, son, ready.
Content de vous rencontrer.
1, 2, 3, Bélier.
Ça a été excellent de t'avoir rassuré.
Merci, merci.
Faut que tu t'accroches, t'as un gros potentiel.
Have you ever seen a one-trick pony and feel so happy and free?
Faudrait que je fasse plus d'heures.
Les samedis, c'est le jour où tu casses les têtes entre tes fesses, non?
Have you ever seen a one-legged dog?
Tiens, pas boire une bière. Une bière.
T'avais pas une fille?
Ma fille, tu sais, elle m'aime pas beaucoup.
appelle-la.
Nous sommes dans le hall du cinéma Les Carmes cette semaine, et pour un thème qui nous tient à cœur, qui nous tient vraiment à cœur depuis longtemps, on va parler de catch au cinéma, comme vous l'avez annoncé la semaine dernière. Alors, on a parlé d'art et essai, la semaine dernière, on va passer une transition avec le catch au cinéma, ce sport-spectacle iconique du divertissement américain aujourd'hui. Il a des racines, figurez-vous, en Europe, et plus particulièrement en France. On va en parler en tout cas cette semaine, et pour tout le mois, avec nos amis directement alors je vais le dire avec l'accent, parce que les gars, sinon vous allez me reprendre, de l'Orléans Wrestling Association. Donc on va déjà saluer Emeric, qu'on a eu le plaisir d'avoir avec beaucoup de monde déjà de l'association pour l'association, et puis évidemment pour la présentation d'une séance dont on reparlera dans le podcast, puisqu'on a déjà fait une séance à un moment où on enregistre ce podcast.
Tout à fait.
Au cinéma Les Carmes, Invasion Los Angeles. Alors bonjour Emeric.
Bonjour Romaric.
Alors évidemment là on va parler de l'association, on va évidemment accueillir tous les invités. Alors Mathieu, bonsoir également.
Bonsoir, merci.
Et puis on finit avec Florian. Voilà. Bonsoir Florian. Bonsoir. Également. Alors vous êtes tous les trois membres de l'association l'Orléans Wrestling Association. Non, je vais déjà vous laisser présenter l'association de catch d'Orléanais, évidemment. Pourquoi mettre wrestling, qui est absolument imprononçable pour tous les Français, et prendre un nom anglais?
Parce que c'est effectivement aujourd'hui ce qu'on reconnaît le plus dans le catch, si on veut avoir une reconnaissance européenne. Aujourd'hui, je pense que le catch est beaucoup plus anglophone que francophone, et du coup voilà, c'est la petite marque de fabrique. On aurait pu mettre lutte, on aurait pu mettre catch aussi directement, mais c'est vrai que le côté wrestling, on va chercher les grands d'Amérique.
Exactement. Mais c'est effectivement toujours imprononçable pour les Français qui n'ont pas l'accent. Alors, on est ravis de vous avoir. Et puis, évidemment, je vais commencer par faire un petit parcours quand même de la création de l'association. Ça fait déjà plusieurs années qu'elle existe, l'Orléans Wrestling Association. Ça fait 5-6 ans de mémoire, à peu près.
Depuis 2016, oui.
Voilà, à peu près. Alors, quelle est l'origine du projet? Parce que, comme on le disait, il y a des racines, et on va tout de suite en parler après cette présentation en Europe et en particulier en France. Mm-hmm. Mais c'est vrai que le catch en France, à l'américaine, je dirais, il faut quand même mettre un certain temps pour le démocratiser, et puis surtout pour le voir au niveau local quasiment. Donc ça, c'est un vrai beau projet en final.
Tout à fait. En fait, moi, le projet, c'est bête, mais c'est comme beaucoup de passion ou autre, c'est que j'ai toujours voulu en faire. Ça a commencé comme ça, et c'est vrai que j'ai eu l'opportunité de commencer sur Paris. Et quand je suis revenu vivre sur Orléans, je me suis dit c'est trop bête d'avoir quelques bases, des connaissances, et de pas pouvoir ouvrir ces choses-là à des mecs comme moi qui à Orléans avaient envie. Et je me suis dit je vais tenter l'expérience, on sait jamais, par grande chance ça a peut-être fonctionné. Et effectivement, 7-8 ans plus tard, on est une trentaine dans l'assaut, on fait des shows, on commence à avoir une petite reconnaissance sur Orléans et les alentours. Donc voilà, c'est un beau projet, et j'espère qu'on va pouvoir le mener plus loin.
Alors là, au moment où on enregistre, on est dans le premier épisode, donc on peut évidemment donner votre prochaine date, qui sont très importantes, notamment le 17 février, le samedi, on peut le citer, hein, pour tous ceux qui nous écoutent déjà là et qui disent waouh, il y a du catch sur Orléans, et en plus ils parlent de cinéma les mecs. Donc le samedi 17, il y a déjà un show.
Tout à fait, le 17 février au gymnase des Sceaux, juste derrière l'hôtel Mercure sur les Quais de Loire, plein centre-ville d'Orléans. Donc il y a de la place pour se garer, il y a des choses, faut pas hésiter, faut venir. C'est un spectacle familial, on peut venir de tout petit jusqu'à très très grand, et c'est très très cool.
Ok, bah on citera, on répétera cette date dans cette première et la deuxième émission la semaine prochaine. Ça, c'est très important. Alors on est très content de vous avoir, parce que c'est vrai que pour le coup, c'est un thème, on le dit dans l'émission, ça fait des années qu'on veut en parler, mais là on a la chance d'avoir des spécialistes qui en plus connaissent le cinéma.
Je suis la mascotte des tortionnaires.
Mais nous, on n'est pas gentils avec toi, nous, hein?
Oh, je pense bien. Il m'a enfermé dans la cave. Monsieur voulait foutre le camp.
Pour un rhumatisant, c'est gentil, c'est délicat, non?
Mais pourquoi t'as rencontré ce mec-là? Tu méritais pas ça. Ça, c'est vrai que t'es ingrat, tu sais, Léonard. J'arrête pas de te sauver et tu râles tout le temps. Hein? Tu crois que c'est gentil, ça? Dis.
Fallait me laisser mourir. Puisque de toute façon, je... voilà.
Mais faut pas dire ça, Léonard, voyons. Dis. Écoute. Je sors de chez le colonel. Stolmla, ce qu'il demande, c'est de t'entendre, c'est tout. Tu lui dis ce que tu fous à l'aérodrome. Et c'est tout, voilà.
Moi, l'aérodrome.
Ah, je t'ai vu.
Ah bon? Oui. Écoutez, c'est très simple.
Non. Si c'est très simple, hein, tu vas aller lui raconter à lui. Très simplement. Parce que moi, je ne veux rien savoir, hein.
Je raconterai rien du tout. Parce que j'irai pas, voilà.
C'est vrai qu'il y a des racines hexagonales dans la lutte et les liens avec le catch. Et la première chose sur laquelle je peux vous lancer, évidemment, c'est le personnage. On y pense assez peu, mais que c'était créé quasiment Lino Ventura, en fait, puisque lui-même était lutteur, catcheur, évidemment. Alors, comme on le disait à l'époque en France, on parlait de savate aussi, parfois, de ces sports un peu francisés. Et Lino Ventura, il est repéré justement parce qu'il est au départ lutteur, mais aussi il va devenir manager de lutteur. Et on a besoin dans les films de gangsters pour ses premiers rôles de quelqu'un qui a une vraie gueule, qui typiquement qui va trancher avec les jeunes premiers du cinéma français de l'époque. Et Lino Ventura a toujours reconnu et assumé évidemment, on ne voit pas pourquoi il y a eu une honte en tout cas à voir ça, mais c'était une forme de marginalité qu'il a toujours assumé et qu'il a amené dans le cinéma français, ce côté-là, ce côté lutteur. Comment vous percevez en tout cas ce rôle-là? En tout cas, est-ce que vous avez en tout cas ces racines-là hexagonales, vous les assumez? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus sur cet aspect-là?
On a perdu en fait au fil des années, on a perdu justement ce côté où bah, c'est le catch c'est français. Et non, au contraire, il faut être fier. Enfin, il y a Lino Ventura, Bourville aussi, il a fait quelques trucs.
Oui, oui.
Voilà, on a eu la chance d'avoir des mecs comme ça qui ont bah, justement une gueule, qui ont une carrure, qui ont des trucs comme ça. Et le cinéma, il a toujours recherché ça en fait.
Ouais.
Donc c'est, ça joue beaucoup en fait sur le côté charismatique, etc. Et bah, c'est des mecs qui ont l'habitude du public. Donc c'est des gens qu'on va avoir moins de mal, on va dire, à gérer sur des tournages, des choses comme ça, parce qu'ils ont l'habitude en fait, tout simplement.
Si tu permets, je vais prendre la question un peu à l'envers.
Ah, je permets complètement.
C'est-à-dire que, au final, tu as évoqué le catch comme un sport-spectacle.
Oui.
J'aurais tendance à dire que c'est d'abord un spectacle. Et en fait, c'est une vraie école. Lino Ventura s'en est pas caché. Mais en même temps, ça serait un petit peu dire je suis venu journaliste, mais j'ai jamais fait d'études. C'est pas vrai. T'as appris à faire des choses, ouais, etc. Et c'est passé par le catch. C'est passé par gérer un public. C'est passé par transmettre une émotion. Il a un petit peu managé, comme tu évoquais. Et du coup, c'est gérer un micro, gérer une réaction, gérer une attitude, passer un message et qu'il soit compris facilement sans pour autant tomber dans du banal « oulala, je suis pas gentil ». Donc du coup, au final, c'est une vraie école du comment gérer un public. Et le catch, vu que c'est avec un public, c'est en direct. Donc la moindre erreur, le moindre truc qui est pas ok, il faut savoir retomber sur ses pattes. Il n'y a pas plus formateur. Et du coup, effectivement, c'est français et Lino Ventura en a profité. Mais comme c'est très formateur, ça s'est aussi beaucoup développé à une période avec du moins bon, puisque bah, tout le monde n'avait pas forcément les bonnes personnes pour les former. Et du coup, c'est, je pense, aussi ça qui, à un moment, cassé ce côté bonne image qu'il y avait en France et qui est en train de revenir petit à petit, j'ai l'impression.
Oui, tout à fait. Et c'est bien de parler de ces racines-là, notamment. Bah, alors Lino Ventura, il y avait Jean Lefebvre qui disait, c'est une anecdote de tournage, qui lui avait appris à prendre des claques, notamment pour les Tontons Flingueurs et toute cette série-là, des barbouzes, etc. Et il lui expliquait qu'il fallait tourner le visage dans le même côté d'où venait la claque, sinon ça faisait un peu plus mal. Jean Lefebvre avait toujours cité voilà, ce côté professeur de Lino Ventura, qui lui disait, quand tu tournes la tête en même temps que la claque, le choc, et tu l'encaisses pas, donc forcément ça passe plus vite. Bon, après, il ne faut pas en prendre non plus 150 sur la tronche, mais c'était assez intéressant. Et puis, il y a aussi une scène... Alors c'est une petite scénette, hein. On en avait parlé avec Emeric en préparant l'émission, mais vous prenez un grand huis clos comme Marie Octobre, où on voit du catch, des gens qui regardent du catch à la télé, on est en France, on est juste après la Seconde Guerre mondiale, et on voit qu'il y a une vraie popularité dans les années 50-60, justement de ces disciplines hexagonales. Voilà. Après évidemment il y a eu peut-être un creux dont on va parler, mais c'était en tout cas là-dessus que je voulais vous lancer vraiment pour débuter l'émission, parce que évidemment ce qui nous intéresse dans cette première émission, c'est comment la mise en scène, dès le début, elle va naître avec le catch. La mise en scène d'une manière c'est quelque chose de très abstrait dans le cinéma, c'est comment mettre bien les comédiens, comment mettre en valeur son scénario avec des éléments de script et tout ce qui peut nous passer par l'imagination. Mais il y a une vraie notion de mise en scène qui est née en fait avec le catch. Là par exemple, je peux déjà vous demander vos noms de catcheurs, si vous n'avez pas vos noms pères propres à proprement parler sur la scène, ça peut être rigolo déjà.
Ouais, on a tous des pseudos Voilà, moi perso c'est Dario Bishop du coup.
Allez.
Voilà, donc je suis pas un mec super agréable sur le ring. Je fais un peu mal, beaucoup, mais voilà, après c'est vraiment des personnages, hein. Ouais. Voilà, on va être franc, c'est des personnages. Après il y en a, ils le vivent à fond, hein. Typiquement il y a des mecs comme Chris Jericho qui sont sur le ring et dans la vraie vie. C'est-à-dire que si le mec il est gentil, il va vous signer des autographes à la sortie. Si le mec il est méchant, à ce moment-là, bah, il va juste vous faire un doigt et puis il va s'en aller dans sa caravane. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Mais voilà, on a tous nos trucs. Et ça permet justement d'exploiter des trucs qu'on n'exploite jamais dans la vraie vie. Moi je vais pas juste venir tabasser des gens et puis repartir et puis bon va gentil moi. Voilà, c'est bien. c'est bien de le faire sur le ring, ça permet de se défouler un peu, quoi.
Ok. Et c'est, oui, là on voit tout de suite la création d'un personnage. De toute façon, on va y revenir, hein. C'est vrai que c'est très important de se dire que dès le début, on se dit, bah tiens, je choisis un personnage qui est proche ou pas de ma personnalité, qui va trancher ou pas. Mais il y a tout de suite l'idée de se préparer, de se dire comment on va s'apprêter, comment on va jouer. Évidemment, la comédie aussi rentre directement en ligne de compte, là, ici, Aymeric.
L'avantage, en fait, de cette discipline, c'est qu'on peut tant être entre guillemets méchant et dans 6 mois devenir totalement le chouchou du public. C'est ça qui est hyper cool, c'est que comme dans un film, un acteur, il peut avoir un très très mauvais rôle dans un film et dans le film suivant avoir le super rôle du papa gentil qui, enfin voilà, pour faire grossièrement, mais du coup dans l'idée, nous c'est pareil. Donc en fait, quand Mathieu dit que il y a des catcheurs qui vivent leur personnage aussi à l'extérieur du ring, dans leur vie privée, il cite Chris Jericho, on peut citer aussi Ric Flair qui typiquement lui vivait son personnage sur le ring qu'à l'extérieur.
Ric Flair, pour les gens qui découvrent, hein, c'est vraiment le réganien, en fait, hein. Il est excessivement riche, prétentieux, il est blond. Je suis à peu près sûr qu'il n'était pas blond naturel, mais aussi qu'il c'est un vrai blond, mais il en faisait excessivement des caisses, et c'est en gros l'équivalent en mode catcher du Donald Trump de l'époque,
qui
tape à l'œil et qui en fait énormément, voilà.
Et c'est exactement ça, en fait, c'est que c'était le fric, les filles au détriment de sa famille, parce qu'il avait une femme et des enfants, mais c'était le fric et les filles, et il le vivait sur le catch mais aussi à l'extérieur. Donc là, c'est typiquement effectivement le catcheur qui vit son personnage à l'extérieur. Et donc c'est vrai que on a un avantage de pouvoir quand même switcher, garder le même personnage mais switcher d'apparence, de caractère, de tout ça, en fait. Tel un acteur.
Oui, c'est assez important, hein. Bah, d'ailleurs, je t'ai pas demandé ton pseudo en catcheur, Aymeric.
T'es mal entouré, parce que moi aussi je suis pas très très gentil sur le ring.
On va en parler de ça, c'est assez intéressant parce que c'est les codes du catch. Mais alors, du coup, au méchant en catch.
Moi je suis Dan Cordet, okay. Le duc d'Orléans, et le petit peuple ne m'intéresse pas.
Allez, voilà. Fantastique. Ça, c'est une bonne punchline. Florian, je t'ai pas demandé d'ailleurs non plus.
Alors, du coup, moi je catche pas. J'ai un petit peu managé Darius à un moment, oui. Mais du coup, là, actuellement, je me concentre plutôt sur l'aspect technique sur les shows. Donc, moi, je vais m'occuper de tout ce qui est vidéo.
On va en parler.
Qui s'occupe du son. Mais comme moi, j'ai une formation là-dedans aussi, quand cette personne va catcher, moi, je vais aussi prendre le relais au niveau du son.
Très bien.
Voilà, donc plutôt technique.
Bah, c'est intéressant parce qu'on voit vraiment tous les coulisses qui vont être essentielles là-dedans dans le catch pour vraiment la préparation des personnages. Et on voit également qu'on a des personnages qui peuvent être liés à un contexte. Ça, c'est important puisqu'on parlait de Ric Flair. C'est typiquement le personnage qui naît dans les années 80. Aujourd'hui, quand on va avoir des personnages qui vont apparaître, ils vont forcément être liés beaucoup plus à un contexte plus moderne. Donc il y a notamment des gimmicks qui ne peuvent plus exister aujourd'hui. Mais ça, on va en parler parce que justement, on parlait de méchant, de gentil. C'est un des premiers codes du catch pour ceux qui découvrent le catch, qui est très lié au cinéma. C'est qu'il y a un côté, alors manichéen, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas, il y a une forme de binarité, je dirais, dans l'opposition du mal et du bien, hein. De manière assez basique, hein, on peut dire qu'il y a, grosso modo, alors on utilise un peu un anglicisme, il y a un heel, donc un méchant, et vous avez un
face.
Un gentil, donc qui doivent s'opposer. Alors, est-ce que ces codes-là, qui sont très pratiqués dans le catch, vous les reproduisez systématiquement? Comment ça se passe en termes d'écriture?
Tout à fait, quand on fait un booking, on évite d'avoir deux catcher face face à face, ou alors il y aura un grand respect sur le ring. Mais concrètement, le catch, c'est piège de cristal, hein.
Oui.
On a un méchant allemand et face à un gentil américain, quoi. C'est quelque chose à quelque chose près, c'est ça, quoi.
C'est vrai, quand on regarde du catch des années 80, il y avait des choses qui aujourd'hui seraient plus possibles, notamment des figures d'étrangers complètement caricaturales qui sont souvent jouées par des catcheurs américains. Donc il y avait notamment un cas qui était assez rigolo, c'était Santino Marella, qui est joué par un Canadien et qui joue l'italien, mais avec tout le cliché, il mange des pâtes, il aime des filles et puis il fait des gestes, etc. Donc quasiment des clichés, bon, racistes, on peut le dire, dans les années 80.
Ouais, bah.
Et parce qu'il faut absolument, pour le public américain, montrer des codes de l'étranger et tout de suite qu'ils soient identifiables. Et c'est là où on fera d'autres passerelles avec les jeux vidéo tout à l'heure, qui reprenaient ces mêmes clichés pour que ce soit tout de suite identifiable, hein, Florian.
Je rebondissais là-dessus, c'est quelque chose qui est d'une autre époque et pas tant. Alors là, je vais parler typiquement de WWE parce que c'est quand même très propre à chez eux, et avec tous les scandales qu'il y a autour de Vince McMahon, on sait que là, c'est quelqu'un de très peu recommandable.
Alors, mais Vince McMahon, je fais toujours le petit,
oui,
le petit
pardon,
prof, hein, c'est le boss de la WWE.
L'ancien boss.
Ça a changé, qui a eu vraiment une histoire familiale quasiment foraine, hein. Oui. C'est-à-dire qu'il va vraiment mettre en avant cette franchise-là, cette ligue-là, alors qu'il y a eu beaucoup de ligues concurrentes aux États-Unis dans les années 70-80. Aujourd'hui, c'est celle qui écrase tout, qu'on voit sur AB1, notamment en France. Oui. Et c'est lui vraiment qui a démocratisé ça, quoi.
Du coup, justement,
Vince McMahon, pardon, je t'avais
coupé. Oui, non, pas de souci. Il y a deux noms qui ont été cités à côté pendant que tu faisais ta présentation. Il y a eu donc Teddy Santino Morella. Il y a Kofi Kingston qui a été cité, qui avait une gimmick de Jamaïcain alors qu'il est Guinéen. C'est quand même pas tout à fait pareil. Un exemple plus moderne, il y a Jinder Mahal qui joue en Indien alors qu'il est Canadien. Mais du coup, moi, tu disais aujourd'hui, on peut plus faire ce cliché de l'étranger. C'est une anecdote qui, du coup, a été révélé par le catcheur après son licenciement, mais Mustafa Ali, qui, du coup, il est né, si je dis pas de bêtises, en 95, quelque chose comme ça. Et du coup, non, il avait 11 ans, donc 80, 10, pardon. Il était présenté comme, il voulait, du moins, on demandait à ce qu'il soit présenté comme le responsable des attentats de 2001.
Oh, d'accord.
Voilà. Donc, un catcheur qui est ouvertement musulman et qu'on a présenté comme le responsable de ça, genre le nouveau Ben Laden. Il avait 11 ans déjà, c'est pas possible. Et ensuite, le cliché du musulman terroriste est du coup toujours d'actualité. Ce plan était pour 2021, si j'ai pas
oublié. Oui, puis il y avait aussi des oppositions des années 80 très marquées, à l'image de, c'est là où on fait beaucoup de parler avec le cinéma, forcément, hein, quand on voit Rocky IV sur le bloc de l'Est, et évidemment, le catch l'a fait dans les années 80, le méchant communiste, le gentil américain, avec Hulk Hogan, qui est vraiment un des premiers à lancer une énorme popularité dans les années 80. Et c'est les premières images qu'on a de catch en France, hein, qui passaient à l'époque sur Canal+, c'est la grande vague d'Hulk Hogan qui était absolument incontournable.
Et justement, qui catchait à cette époque-là contre le bloc soviétique du catch américain. Quoi.
Voilà, donc l'Amérique très riganienne.
Ouais, ça, on était conduit Volkov, des mecs comme ça, et c'était les gars qui arrivaient avec leur chapka et compagnie, donc on était tout à fait dans ce style-là. Et tu parlais de Mustafa Ali, justement, Florian, et il y a dans ce modèle-là, au moment des attentats, il y a le catcheur Mohamed Hassan, qui est rentré à la WWE. Ah oui, et la première entrée qu'il fait, c'est avec des mecs cagoulés et des mecs cagoulés, et en gros c'était effectivement des représentants d'Al-Qaïda, entre guillemets. C'était vraiment sur ça. Donc oui, il y a ce côté vraiment méchant qu'on peut aller chercher dans les films, et le parallèle qu'on retrouve dans le catch, il est présent, quoi, concrètement.
Alors, c'est vrai que là, quand on entend ça, on peut dire ouais, le catch c'est pas fin. Évidemment il y a une confrontation, mais on voit qu'elle est exacerbée par ces personnages-là qui sont écrits. Mais évidemment, là, on parlait d'écriture des années 80, et on voit même qu'à l'époque, le cinéma, puisque évidemment, on va prendre comme prisme le cinéma américain d'action, hein, puisque évidemment, le catch va se démocratiser, va avoir une influence mondiale via Vince McMahon et la WWE. Et c'est évidemment en parallèle avec ce cinéma riganien des années 80, donc forcément il y a des histoires en parallèle, hein, puisque si on a programmé nous au cinéma Licarme Invasion Los Angeles, c'est justement qu'il y avait un catcheur dans un film qui prenait le contre-pied de cette Amérique riganienne. On voyait Roddy Piper, qui est un des grands catcheurs des années 80, qui lui jouait un SDF dans Los Angeles, une Los Angeles florissante riganienne, et qui justement était un marginal de cette époque-là. Donc c'était justement pour ça qu'on montrait que finalement le catch, ça raconte aussi des histoires plus fines. Et c'est justement là où on arrive, moi je voulais vous lancé aussi sur tout ce qui va être storyline. Évidemment, on leur reprend un anglicisme, mais ça c'est affreux, il y a mon Molière en moi qui meurt. Mais la storyline, ça va être comment on va écrire un combat, comment on va écrire un personnage, et comment on va essayer d'interagir avec un contexte et puis avec un public. Alors comment vous, Florian, dans les coulisses peut-être, ou vous-même, vos personnages, comment vous écrivez ces personnages-là, comment vous harmonisez ça entre personnages? Ça, c'est passionnant, quoi.
Ben, en gros, ouais, on va avoir, du coup, d'un côté, on va avoir les heels, on va avoir les face, on va avoir aussi des personnages qui vont être un peu plus ambigus, etc. Après, on va avoir beaucoup de plans. On va écrire beaucoup de choses, etc. On va faire affronter les face, les heal. On va créer en gros des rivalités, des choses comme ça qui peuvent durer sur quelques semaines et des fois quelques mois. Là, il n'y a qu'à voir par exemple Cody Rhodes, ouais, qui du coup, l'année dernière, il gagne son Royal Rumble. Il a perdu à WrestleMania. Là, il regagne. Donc voilà, là, sa storyline à lui, c'est justement finir son histoire par rapport à sa famille, tout ça. Donc c'est des trucs qui pop des fois un certain temps et puis X années plus tard, on va les réexploiter.
Alors, WrestleMania, je rappelle au passage, pour tous ceux qui découvrent le catch, faut que, voilà, c'est l'équivalent de la Coupe du Monde, hein, c'est le gros événement mondial.
Ouais, le Super Bowl du catch.
C'est le
catch,
Super Bowl, ouais, du catch.
Alors, le Super Bowl, c'est...
et le Super Bowl, c'est le mec américain. Mais voilà.
Voilà. Donc évidemment, un événement incontournable pour tous les fans de catch. Et puis Cody Rhodes, une grande dynastie de catcheurs également aux États-Unis, parce que son père lui-même était catcheur. Et c'est vrai que là, pour le coup, il reprend aussi un personnage très tape à l'œil à l'heure actuelle. Hein, ouais. Vraiment l'équivalent d'un Ric Flair, mais plus modernisé, on dirait.
Hein. Ouais, voilà, avec toujours, bah, c'est un peu... En fait, je vois plus dans la veine d'un John Cena, justement, où oui, c'est l'Américain ultime.
Voilà, les... Une forme de prétention exacerbée, ça, ouais, qui est complètement caricaturale, évidemment.
C'est ça.
Et c'est vrai que vous devez forcément partir de ça pour écrire ces vos personnages, voire les caricaturer eux-mêmes.
création de personnages, effectivement, en fait, on va donc ça va jouer sur nos bookings, sur la façon dont on écrit une storyline, effectivement. Ça va être un caractère, ça va être un personnage, comme justement Elise Fenn à l'OWA, qui est très prétentieux, très « je veux gagner, je suis là pour gagner, je ne perdrai pas, je ne veux pas perdre ». Et quand il perd, il casse tout.
L'OWA, c'est une ligue concurrente de WWE.
L'OWA, c'est nous.
Ah, c'est vous.
Voilà, merci. Mais on peut être concurrent. On est concurrente, effectivement, de la WWE.
Ça, franchement, ça nous va.
J'avais compris EWA, je me dis, tiens, c'est une vieille ligue perdue au fin fond de...
Non,
bien l'OWA.
Ouais, c'est ça, exactement, okay. Orléans. Ouais.
Donc tu refuses l'obstacle, tu dis pas wrestling.
Non, mais on va utiliser le sigle, c'est beaucoup plus simple.
C'est mieux.
L'OA, c'est très bien.
Voilà, pardon, bah du coup, je t'avais coupé dans ton élan, excuse-moi, parce que c'était très intéressant, mais c'est vrai que on voit qu'il y a des anglicismes quand même à expliquer, hein, pour tous ceux qui découvrent le catch. Ouais. Ça vient très rapidement, mais il y a aussi toute une pédagogie à avoir. Je pense aussi, vous, quand vous faites vos shows vis-à-vis du public, hein, parce que ça, c'est une interaction très importante.
Tout à fait, le public, c'est le nerf de la guerre. Hein. On monte pas sur le ring pour nous. Hein. Enfin, on monte sur le ring parce qu'on aime ça, mais on monte sur le ring pour le public, c'est divertir le public. C'est du théâtre, c'est du cinéma. On doit, comme l'a dit Florian tout à l'heure avec Lino Ventura, c'est on doit provoquer quelque chose, donner une émotion. Et ça peut arriver parfois sur le ring, un catcheur comme... Comme Dario, il monte sur le ring, il est méchant, c'est le pire du monde, tout le monde le déteste. Ouh. Et au final, pendant le match, on s'aperçoit que les gens commencent à l'apprécier parce que son physique rappelle quelqu'un, son physique, enfin voilà, et il va être supporté pendant le match. Et donc, on va devoir nous tourner tout ça. Les catcheurs vont devoir gérer pour pouvoir tourner tout ça sur le ring en temps réel, pour pouvoir justement gagner la sympathie si on voit que au final le méchant qui devait être méchant devient gentil. Donc s'il devait par exemple finir un match sur de la triche, on va devoir changer ça et ils vont devoir faire ça instant sur le ring.
Alors, beaucoup ça, d'improvisation. C'est hyper intéressant parce qu'on voit qu'il y a une part d'improvisation, il y a des liens forcément avec le théâtre vivant, forcément, parce que là on voit que vous écrivez vos personnages, vous allez écrire des combats aussi, et ça va être assez intéressant. Et, mais par contre tu étais parti, Mathieu, là.
En fait, ouais, justement, j'allais rebondir là-dessus. En fait, les storylines, on peut les écrire, on peut, etc. On peut préparer notre match des mois et des mois en avance. Hein. Si le public en a décidé autrement, on s'adaptera au public.
Ouais,
sur l'instant T, voilà, clairement, on va avoir l'exemple type, ça a été le The Rock Hogan,
oui.
Où Hogan, il débarquait en méchant. The Rock, c'était le babyface absolu.
Le gentil,
le public, en fait, en a décidé autrement. Quand ils ont vu Hogan, ils l'ont surpopé. Ça a été de la folie. Donc, le match n'est pas fou, mais juste pour l'ambiance, il reste légendaire, culte, parce que, en fait, les gars, ils ont tourner le truc. Et The Rock, du coup, il est revenu dans ses gimmicks à l'ancienne de mec arrogant et qui veut tabasser, etc. Et Hogan, il est revenu en super Hogan invincible qui devient fou et qui emmène le public avec lui.
Après la fin du deuxième round, eh mais oui, le russe aussi veut continuer. Il saisit Balboa à la gorge. Balboa se revive, il envoie couler le russe au sol comme un champion de catch. Il se fout d'une peignée. Tous les coups sont permis ici, à Moscou. Rocky en a peut-être reçu sa part jusqu'à présent, mais il en a sous le pied. Ça tourne au règlement de compte. Très franchement, on ne sait plus très bien qui boxe qui.
Extra, Rocky. Même moi, j'aurais pas fait mieux.
Merci.
Cette fois, tu l'amoffes.
Ouais.
Là, il s'inquiète. Tu lui fais mal, tu le tabasses. T'as vu ? Tu vois ? C'est pas une machine, c'est un mec.
Il y a quelque chose de très hollywoodien là-dedans, parce que quand on prend, tout à l'heure je prenais l'exemple de Rocky 4 pour la confrontation de blocs, on voit que Stallone, en fait, quand il écrit la boxe, il pense à des interactions qui sont finalement beaucoup plus proches vis-à-vis du public que celles du catch, en fait. Si on voit que Stallone, souvent, un combat culte dans un... c'est pas des grands films, hein, le 4 notamment, mais on voit que typiquement, il est très intéressant déjà parce que son contexte de production, hein, c'est l'Amérique réganienne, comme on le disait tout à l'heure, qui est quand même quelque chose de matriciel avec le catch à l'anglo-saxonne, quoi qu'on en fasse. Hein. Et même si cette Amérique-là, qui était quand même une Amérique qui a donné des cinémas et des films où on voyait la violence sociale exacerbée, bon, bah, ça reste quand même quelque chose qui doit rentrer dans ces codes-là. On doit jouer avec, hein, et j'imagine que vous jouez aussi avec aussi. Mais on voit que dans Rocky IV, on a un Stallone qui commence, donc c'est à fin fond de la Russie contre un soviétique, c'est bon, avant la fin du bloc de l'Est. Et vous avez Rocky qui est d'abord hué, qui va ensuite interagir avec la foule, et à la fin, la foule dit Rocky. Donc typiquement, c'est le match où le héros américain retourne la foule. Et on voit que finalement, quand Stallone écrit les interactions, il est beaucoup plus proche de ce que le public va faire quand il va voir du catch que quand il va voir de la boxe. Alors après, vous me dites ce que vous en pensez, parce que je pense qu'on est beaucoup, c'est un des films les plus vus de l'histoire à avoir vu Rocky IV, mais on est typiquement dans cette forme d'écriture-là, quoi, dans les interactions avec le public. Dans la façon de retourner un public.
En fait, ça me fait penser à deux choses que tu dis là. La première, tout à l'heure, j'évoquais par rapport à Lino Ventura, le fait que tu dois t'adapter à ton public parce que tu es en live. Et en fait, c'est ce qui se passe très régulièrement. Hogan et Rock l'ont très bien fait. Le match a commencé, le public réagit, il inverse complètement les rôles. Qu'est-ce qu'on fait ? Les deux ont assez de bouteilles. Je pense que l'arbitre a aussi eu, lui, des consignes ou quoi. Ils se sont quelque part mis d'accord, mais très vite pour ok, on joue à fond, on change les rôles. Et c'est un vrai truc qu'on retrouve dans le catch, mais aussi au cinéma, le fait de s'adapter. C'est un truc qu'on retrouve aussi dans l'écriture des storylines, un catcheur qui se blesse, un truc qui se passe pas comme prévu, ben, comment on gère? Parce que ben, le gars il tombe et il aurait pas dû tomber, ben, je vais pas attendre qu'il se relève, comment je gère? Donc c'est un vrai apprentissage qu'il y a et que du coup on retrouve dans le cinéma. Par rapport à Rocky, en fait ça m'a fait penser quand tu as évoqué cette scène là à la période du Covid dans le catch à la WWE, ils ont ramené quelque chose qui avait déjà un peu été amené par Bray Wyatt, ouais. Paix à son âme, oui. C'est-à-dire le concept de match cinématographique. Il y avait eu un peu ça du côté de TNA, donc une fédération plus petite américaine avec les frères Hardy, mais c'est surtout Bray Wyatt qui l'a démocratisé. Et du coup, pendant la pandémie, ils ont fait beaucoup de catch cinématique. Et en fait, on se rapproche beaucoup de ce qu'il y a au cinéma, et notamment dans Rocky IV, c'est-à-dire que là, on est clairement sur du cinéma, les coups étaient anticipés, ça jusque là, mais du coup étaient mis en scène, il y avait plein de plans de caméra, il y a des plans qui étaient retournés, etc. Et donc en fait au final on est beaucoup plus proche du catch, la preuve, puisque quand tu regardes le match de Rocky 4 ou un match cinématique pendant la pandémie, beaucoup plus, on sort du cadre de la boxe, mais voilà, on y retrouve un peu les mêmes codes, les gros plans alternés sur des plans plus larges, alternés sur des choses comme ça. Dans Rocky 4, il me semble qu'il y a 2-3 moments, il y a des petits faux raccords. Je crois que l'émission de Michel, oui, ça doit... Michel en avait fait
ça doit traîner
on avait fait une review, mais du coup bah, on les retrouve aussi dans les trucs du catch, mais on a vraiment ces mêmes codes. Mais en même temps, c'est très difficile au cinéma d'arriver à avoir un sport de combat et que ça sonne réaliste sans que justement cette mise en scène ressorte. Donc c'est logique. Et si aussi on prend des catcheurs, que beaucoup de catcheurs ont fait cascadeurs ou qu'on considère les catcheurs comme des cascadeurs modernes, du moins modernes, hors cinéma, pardon, c'est aussi parce que justement ils ont cette capacité de mise en scène et de rendre réaliste quelque chose qui ne l'est pas. Ouais. Donc voilà, Rocky IV, c'est une forme de catch, mais parce qu'au final, les catcheurs sont les premiers à avoir initié cette forme de combat scénarisé, genre cinématographique en fait.
Oui, exactement, la mise en scène fait partie du catch, hein. C'est vraiment la première thématique qu'on développe cette semaine. Alors pour finir sur ce thème-là, parce que c'est vrai que le temps passe vite, moi je voulais tout simplement vous demander comment vous écrivez vos combats, tout simplement, on le dit, ça se prépare plusieurs semaines à l'avance. Donc forcément il y a des figures imposées, j'imagine, Aymeric, et puis également il y a une latitude, comme on disait à l'instant avec Florian, pour pouvoir improviser si jamais ça prend différemment avec une foule. Et ça c'est vraiment passionnant, parce qu'on voit que vous êtes à la fois dans une logique de comédien mais également dans une logique d'impro, donc on voit les liens qui sont dès la naissance en fait de cette discipline là et ça c'est quelque chose de vraiment passionnant, parce que là on rentre vraiment dans l'envers du décor, hein.
Tout à fait.
Là, on développe des secrets de magicien peut-être même.
On va pas tout dévoiler quand même.
Ouais non, gardons.
En gros, techniquement, on va commencer déjà par écrire ce qu'on appelle un booking. Ça va être la carte du show. Donc, on va avoir donc les matchs qui vont se prédéfinir. Et on a, nous, une équipe créative qui nous permet d'écrire ce booking et de guider vers là où on veut aller. C'est-à-dire que sur les plusieurs shows qu'on va avoir là sur Orléans jusqu'à fin juin, on va avoir des storylines du coup qui vont se mettre en place, et ces storylines après les gars qui vont être à l'intérieur de ces storylines vont justement eux mettre en place leur match. On leur laisse une liberté totale. On guide souvent un petit peu les fins pour pouvoir emmener sur le prochain show, etc., etc. Mais en général, les catcheurs ont l'écriture totale de leur match.
Ça c'est un élément important, c'est que même quand on regarde du catch à la télé, quand un combat est commencé, on connaît l'issue.
La
plupart du temps. Alors, c'est vrai que parfois, on sait qu'il y a eu des. Ça a pu être scénarisé aussi, donc c'est souvent ça, c'est un peu le côté magicien d'Oz de cette discipline. Et c'est pour ça qu'il y a des parallèles énormes avec le cinéma. C'est que parfois, il y a des choses qui sont scénarisées qui n'étaient pas prévues. Parfois, il y a des issues de combat qui ne correspondent pas à ce qu'on avait écrit, mais on a réussi à rebondir sur nos pattes en recréant une histoire à partir de là. On voit qu'en fait, le catch, il joue souvent un peu au chat à la souris avec le spectateur. Mm-hmm. Et c'est évidemment un point commun énorme avec le cinéma. On voit à quel point c'est peut-être la discipline sportive la plus cinématographique, en fait.
Tout à fait.
Comme on le disait.
Tout à fait. Et c'est justement ça qui est intéressant, c'est que nous, on connaît l'issue d'un combat. On emmène jusqu'à le public, justement, jusqu'à ce dénouement. Et l'idée, c'est de créer cette série, en fait. De se dire, voilà, on veut que vous reveniez à l'épisode 2 parce qu'à l'épisode 1, il s'est passé ça et on veut savoir ce qui s'est passé après et ce qui va se passer après. Donc oui, il y a cet élément où nous, on connaît à l'avance pour pouvoir justement faire monter la sauce. Comme quand on fait dans une série, comme quand on fait, on a des happenings, des choses comme ça qui se mettent en place et après qui permettent de pouvoir finir une rivalité, en commencer une nouvelle, etc., etc.
Très récemment, il y a eu sur donc Netflix Catch dans la boue, non ?
En anglais,
The Wrestlers.
Alors c'est passionnant parce que c'est une ligue très mineure aux États-Unis et c'est Jon Snow, donc un ancien catcheur professionnel, qui mène cette ligue-là.
Jon Snow, c'est Game of Thrones. Mais c'est, ça aurait pu. Hein.
Mais ça, je vais le garder parce que c'est. et Al Snow, donc du coup, il mène cette petite ligue avec des moyens très limités. Wrestling is my escape. I'm glad I get to hit people. So I don't want to do any bad things anymore.
OVW is the little engine that could. You get outside of WWE and AEW, the best wrestling in America is taking place right here.
You want to go one-on-one with me?
Yeah!
People watch OVW because you get the first.
Évidemment, là, forcément, je pense qu'en la voyant, ça a dû vous parler au niveau du quotidien. Il y a une scène absolument déchirante. On voit que pour justement faire une petite vidéo et lancer un combat et lancer une bande-annonce finalement d'un combat, il est obligé d'acheter un masque et il est à $30 près pour pouvoir acheter un masque. Il a un budget hyper serré et on voit la passion. Moi, je trouvais cette série documentaire absolument poignante et passionnante parce qu'on voit cette passion qui est essentielle dans la création. Et on passe un temps fou. Je pense que évidemment pour vous, l'équilibre avec la vie professionnelle n'est pas forcément tout le temps facile non plus. Hein, c'est important d'en parler. Mmh. Et ce côté-là, dans cette série documentaire, on voit justement le côté important parce qu'il y a aussi ça qui est important. C'est peut-être un peu un mot valise, vous me direz, mais il y a un réenchantement avec le catch. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'on crée des personnages et tout le monde, évidemment, a le recul nécessaire pour voir que c'est de la fiction. Mais ce sont des gens qui vont lutter pour un peu faire une sorte de théâtre en quelque sorte vivant. Donc ce côté-là, en territoire, on le voit avec cette série, dans un territoire où il y a très peu de catch, il est important, il y a des gens qui ont besoin de voir ça. Et j'imagine que sur Orléans, vous avez des gens aussi qui vont être fidèles, qui vont suivre, qui vont avoir envie de voir cette forme de théâtre vivant, parce que c'en est une, dans un camp en quelque sorte.
Oui, alors Mathieu, je fais juste une petite parenthèse, après je te redonne la parole. Effectivement, la Ohio Valley Wrestling qui est présentée dans ce documentaire là,
c'est très proche de
OVW du coup, c'est l'ancien territoire de développement de la WWE.
C'est ça.
Donc dans les années 2000 en fait, ils utilisaient cette fédération là, cette structure là pour pouvoir envoyer leurs petits noms. Je parle de Brock Lesnar, je parle de Batista, de John Cena, de Randy
Orton, qui sont des vedettes incontournables aujourd'hui,
John Benjamin, qui sont devenus des grands champions après par la suite. Et quand la WWE aurait été avec le contrat avec eux, ils perdent tous les financements qui étaient liés. Et ils se retrouvent effectivement avec des finances beaucoup plus réduites et du coup à devoir compter les sous pour créer un show. Alors l'avantage, c'est qu'ils ont déjà eux une grande structure.
Voilà, ils ont une salle à eux, ça, exactement, et ça c'est incontournable.
Incontournable. Ouais. On adorerait avoir ça à la mairie d'Orléans si jamais. Voilà. Ouais.
Donner un gymnase. On va relayer, donner un gymnase.
Mais vraiment, c'est incontournable et c'est un gros plus parce que ils ont la salle vraiment parfaite pour s'entraîner, faire les shows. Après, c'est quelque chose aux US qui est beaucoup plus démocratisé, donc c'est plus facile de voir ce genre de structure. Mais quand bien même les finances étant réduites, nous c'est pareil. Ici, on compte le moindre euro, même si on a de la trésorerie, on compte le moindre euro parce qu'on sait qu'un imprévu arrive vite, que peut-être pour le show d'après, on a besoin de plus de catcheurs extérieurs, donc il va falloir faire des appels et du coup payer ces gars-là, défraiement, etc. Nanana. Donc voilà, c'est vrai que c'est. On ressent un peu le côté faut tirer la langue pour un billet.
Oui, et c'est une série absolument poignante qu'on recommande vivement, évidemment, à ceux qui veulent découvrir comment ça fonctionne et vraiment à un niveau, je dirais, humain, dans le sens où il n'y a pas toute la grande machine, le grand Barnum de WWE qui peut être aussi fascinant. Mais là, on voit que c'est fait avec des moyens quasiment bénévoles. Hein, avec, alors, évidemment, par rapport au vote, ça reste plus important, mais on voit quand même cette volonté-là qui est essentielle et qui est aussi met en valeur tout ce que vous faites aussi en territoire, parce que là, la difficulté est importante et il faut aller conquérir des gens, mais on voit la passion et l'engagement surtout qu'il faut avoir pour aller jusqu'au bout de ces démarches-là. Et on va continuer pendant tout le mois de février à le faire, et ça, c'est assez essentiel. En tout cas, on vous remercie grandement de le faire en votre compagnie. Time to play the game. It's all about the game, and how you play it. All about control, and if you can take it. All about your debt, and if you can pay it. It's all about pain, and who's gonna make it. I am the game, you don't wanna play me. I am control, no way you can shake me. I am heavy debt, no way you can pay me. I am the pain, and I know you can't take me. Look over your shoulder, ready to run, like a claimant bitch from a smoking gun. I am the game, and I make the rules. So move on out, you can die like a fool. Try to figure out what my mood's gonna be. Come on over, circle, why don't you ask me. Don't you forget there's a price you can pay. Cause I am the game and I want to play.
Deuxième partie, je vous propose d'écouter tout simplement des extraits de l'avant-première du Dernier Jaguar, le film de Gilles Demestre, lors de son avant-première dans la salle du Pâté Saran, évidemment. Donc ça, c'est un film qui va arriver en salle dans pas longtemps, c'est évidemment ciblé plutôt pour les plus jeunes, mais en tout cas, c'est un bon film familial que Rebecca a vu et qu'elle vous recommande très vivement.
C'est un bébé jaguar. Je vais t'appeler Hope, je serai là pour te défendre. Hope. Je me disais, je pouvais... ne pas aller en cours.
Auton, tu vas à l'école et c'est tout.
Je vais demander à un élève d'aller chercher les grenouilles au labo.
Je vais vomir.
Qu'est-ce que tu fais ?
suis en train d'appeler la SPA. C'est quoi ça?
Ça, c'est rien, c'est...
Cher Doc, la situation s'aggrave de jour en jour. Il ne reste qu'un seul et unique jaguar dans la région.
On doit aller la sauver!
Ça fait 8 ans qu'on a quitté la jungle. On n'ira nulle part! We can believe if we open
our eyes. From the darkness we reach for the light. Vous êtes venus tous les deux, malgré tout.
C'est ma prof de biologie. Elle me suit depuis New York.
Il faut vraiment qu'on appelle ton père.
Oui, tout va bien.
T'es complètement secoué! Our dreams come alive.
Sa meilleure amie est un jaguar? Je la ramènerai dans un corridor biologique où elle sera en sécurité.
C'est un animal sauvage, non?
Des trafiquants! Ils traquent! On va trouver le corridor. T'as plus rien.
Donc le dernier jaguar, donc c'était un plaisir vraiment pour les yeux. Il y avait beaucoup d'enfants dans la salle. Il y a eu, pour cette avant-première, il y a eu beaucoup d'enfants qui ont posé des questions, qui suivaient déjà l'actualité cinématographique de M. Gilles Demaître. Et donc, ce qui était intéressant, ce que j'ai retenu, moi, c'est qu'en fait, pour créer vraiment cette proximité avec le jaguar, la jeune femme, en fait, qui joue la petite fille, l'actrice qui joue la petite fille est venue habiter un an à côté de là où était installé le jaguar pour pouvoir lui rendre visite tous les jours et du coup créer un lien très fort. Il paraît que les animaux comme ça, quand ils sont tout bébés et qui sont en lien avec le comédien qui va jouer avec eux dans le film et qui grandissent ensemble, enfin, il y a quelque chose de très fort qui se fait. Et Gilles Demaître nous explique qu'il n'y avait que cette jeune fille qui pouvait approcher le jaguar et les autres. Ça ne passait pas forcément. On parle du dernier jaguar. Bon, il ne reste pas un seul jaguar. Hein, il nous disait qu'il y en avait peut-être 200 qui restaient comme ça. Mais... Ce qui m'a beaucoup sensibilisé, c'est ça, c'est le fait qu'on parle de nature, de protection de la nature, de qu'est-ce que respecter, qu'est-ce que transmettre. Au début du film, en fait, je peux pas raconter le pitch, mais elle doit partir d'urgence. Elle va au Mexique, dans le village dans lequel elle est née. Elle y retourne. Et sur le passage, ce qui m'a marqué, c'est qu'elle croise des gens qui vont vendre des objets de la civilisation, ou alors des animaux, même des petits animaux. Et du coup, on découvre, en fait, entre les lignes, qu'il y a un certain trafic. Et bon, ça, on n'est pas sans savoir que ça fait très longtemps que ça dure. On aimerait tellement que ça s'arrête. Mais moi, franchement, c'était vraiment un film familial. Bon, en tout cas, c'était du beau spectacle, des belles images. Et je tenais également à remercier l'équipe du Pâté qui nous a permis de pouvoir assister à cette avant-première inédite. Voilà, de Gilles Demaître. Le dernier jaguar, c'était Rebecca. Bonne séance à vous.
Bonsoir tout le monde. Bonsoir. C'est vrai que faire ce genre de film, c'est un mélange de beaucoup de joie parce que c'est très passionnant, mais beaucoup de souffrance aussi parce que c'est très compliqué à faire. Bon, maintenant que vous avez vu le film, vous avez compris que tout ça a été fait en vrai, c'est-à-dire que la relation qui est créée entre Autumn et Hope est une vraie relation dans la vie aussi. Donc ça veut dire que cette petite fille a passé énormément de temps avec ce jaguar pour l'apprivoiser, pour créer des liens avec lui et pour pouvoir tourner ce film Centre-Cage, parce que c'est ça moi qui m'intéresse et qui me passionne, c'est de réussir à travers de la fiction connecter et récupérer des moments de vraie vie, des moments d'improvisation, des moments d'authenticité. Et je veux dire, quand une enfant joue avec un animal de ce type, on peut pas truquer. Elle est obligée de jouer vraiment et d'être vraiment à 100% avec l'animal. Et voilà, donc cette relation qu'on crée dans la vraie vie et qu'on peut mettre à l'écran, pour moi, c'est vraiment ce qui me fait vibrer. Donc après, on oublie évidemment toutes les difficultés. Mais c'est vrai que de tourner avec un animal pareil, voilà, tout toute l'organisation du film tourne autour de lui, qui est notre vraie star. Et donc, on est dans le respect absolu, évidemment, de l'animal. Et donc, on ne le dresse pas, on ne l'oblige pas à faire des choses. Donc, toute la machine du film, avec les 100 personnes qui font ce tournage, sont pendues au bon vouloir de cet animal. Évidemment, avec qui on a créé un lien et une relation et qui fait que bah, il est content d'être là, mais par moment il y a des jours où il n'avait pas envie de tourner, enfin voilà, donc c'est vraiment une façon de tourner les films qui est assez rock'n'roll.
Parce que du coup, il y a effectivement la panthère, mais surtout, ouais, la première fois que j'ai vu.
C'est un jaguar, c'est pas une panthère.
Pardon.
Non, mais c'est intéressant ce que vous dites, je vais juste rebondir dessus, parce que bon, il faut savoir qu'il y a très peu de films, quasiment pas de films, qui sont faits avec des jaguars. Vous en voyez de temps en temps quand même dans les films, et généralement, comme c'est le prédateur le plus incontrôlable et le plus dangereux qui soit, c'est vraiment un prédateur solitaire, très compliqué à gérer, généralement ils prennent des panthères, les gens, pour faire des jaguars, oui. Et ils n'utilisent pas des vrais jaguars. Nous, on a décidé de le faire avec le vrai jaguar, parce que bah, c'était important que, on en parlera peut-être plus tard, mais que l'animal donc, qui est menacé, qui a des problèmes, puisse être là pour défendre la cause de ses congénères dans un film.
Bon, tant pis pour moi.
Non, mais c'est intéressant, parce que c'est vrai que voilà, il y a rarement des jaguars dans les films, ou dans les cirques d'ailleurs, on ne voit jamais de jaguars, parce que c'est pas dressable.
Alors, au-delà de dresser, c'est surtout comment est-ce que les autres appréhendent l'animal, parce que du coup, c'est vrai qu'on le voit sauter déjà sur la jeune fille en fait plusieurs fois. Comment est-ce qu'elle, en fait, elle a ressenti ça?
Ben c'est un long apprentissage aussi pour elle, évidemment, d'apprendre comment gérer, comment réagir, parce qu'une mauvaise réaction peut faire que ça transforme l'animal en un tueur, évidemment. Donc évidemment, il y a cette relation qui est créée. À partir du moment où les réactions de la jeune fille sont bonnes, il n'y a pas de problème. Et donc, toute la formation qu'elle a eue pendant un an pour faire ce film, avec ce jaguar, a été faite autour de ça. Donc c'est un apprentissage avec des jours aussi de doute, des jours de peur, des jours de joie, parce que ça donne beaucoup aussi, évidemment, parce que quand on peut faire des câlins à un animal aussi incroyable, c'est aussi fabuleux. Mais bon, je ne sais pas si certains d'entre vous avaient vu Mia et le lion blanc, qui était un des films précédents, où là c'était une jeune fille avec un lion. Là, elle avait passé 3 ans avec ce lion pour créer cette relation. Donc c'est vraiment pour ses enfants. Moi, je suis très admiratif, parce que je ne pense pas que je serais capable de faire ce qu'ils font, le courage. Pas tellement parce que finalement c'est dangereux, mais parce que les a priori, évidemment, sur ces animaux sont tellement forts. Quand on a un lion de 250 kg qui fasse de soi, ou un jaguar qui peut être sur vous en même pas une seconde, on projette énormément de choses. Alors les enfants, un peu moins que les adultes, c'est ça l'avantage. Mais évidemment, voilà, donc il faut lutter contre toutes ces peurs qui sont archaïques face à un tueur. Voilà, bon là, Hope était plutôt très gentil et très adorable, et on le voit qu'il allège et tout ça. Enfin bon, il y avait vraiment un truc très, très amical, des liens très, très forts entre eux. Mais voilà, il faut quand même lutter contre ça. Après, il faut savoir aussi, évidemment, que le tournage est très entouré. Il y a plusieurs personnes qui s'occupent du jaguar. L'actrice n'est jamais seule avec le jaguar. Enfin, voilà, tout ça est très aussi sécurisé.
Graffiti Cinéma, cette semaine, c'est terminé. On vous recommande directement d'écouter les anciens épisodes de l'émission, le thème du mois de janvier par exemple, sur la création, les premiers films notamment. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine avec le deuxième numéro de notre thème consacré au catch au cinéma. La semaine prochaine, donc, on découvre les acteurs catcheurs dans le podcast, les comédiens qui ont percé après avoir été catcheurs. Graffiti Cinéma, vous le retrouvez sur Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, à peu près partout. Vous pouvez le partager et tout simplement vous proposer aussi des thèmes d'émission. On est très à l'écoute de tous les auditeurs qui arrivent sur notre messagerie. Merci à tous, à la semaine prochaine. Bonne semaine de ciné. Salut.
Pourquoi vous avez fait ces graffitis?
Non, pourquoi vous faites ça?